découvrir Hélène Pedneaux, une série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneaux, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Troisième série, la déposition. La vie de quelqu'un qui s'éteint de mort naturelle peut être enterrée avec lui. Celle de cette femme serait peu à peu dévoilée, événement après événement, aussi obscure qu'elle ait pu être, jusqu'à ce que cette vie ait pris le caractère d'une biographie. Ruth Rendell, étrange créature. Avant-propos. Pour moi, la texture de cette pièce est très cinématographique. Les trois parties sont distinctes les unes des autres. L'écriture même est différente, ainsi que l'ambiance et le rapport entre l'inspecteur et l'accusé. L'éclairage est primordial. En première partie, nous n'entendons pas les répliques de l'inspecteur, mais il est là, de dos probablement. On le voit bouger, s'allumer une cigarette, etc. Il est dans l'exacte position de la personne qui interroge dans les deux vidéos. Si on n'entend pas ce qu'il dit, c'est peut-être dû à la schizophrénie de la fille, je ne sais pas. Le mouvement passe du statique, de l'isolement, au contact. Il y a une montée dans le mouvement en même temps qu'une montée vers la lumière, l'ouverture, l'émotion. L'inspecteur est petit, pas du tout impressionnant. À la limite, il n'est pas plus grand que la fille. Il a un côté débonnaire qui alterne avec quelques mouvements d'impatience qu'il ne peut contrôler tout à fait. Mais il n'est jamais violent. Parfois sec et tranchant, mais pas violent. La fille, eh bien, c'est Louise Laprade, c'est tout. Première partie. Je m'appelle Léna Fulvie, je suis née en 1952 à Jonquière. Non, pas au lac Saint-Jean, au Saguenay. Je vous dis ça à cause du chauvinisme, mais aussi par souci de précision géographique. Le Saguenay est anguleux, enfoncé dans ces falaises dont on dit qu'ils sont des fjords. Le lac Saint-Jean est plat, large, plutôt rond, si je me fie à la carte. On ne voit pas de l'autre côté, comme une mer. Le Saguenay est une rivière qui a ses marées. C'est une malformation congénitale. Les vagues sont hautes et les fonds sans fond à certains endroits, dit-on. Il y a des trous, des gouffres. Dedans, il y a des crevettes, du mercure de l'alcan, et des pêcheurs y ont déjà trouvé des requins de 400 livres dans leur filet. Pas des mangeurs d'hommes, quand même. Des baleines s'y égarent parfois quand elles perdent le fil. On ne peut pas manger les crevettes à cause du mercure. Alors vous voyez, ce n'est pas une rivière comme les autres. Le lac Saint-Jean est ce qui reste de la mer de Champlain. Je ne peux pas vous garantir que ce n'est pas une légende. C'est une mer morte avec de la wananiche dedans et des courasses crabes tout le tour. Aimez-vous le nom Métabetchouin? Les noms indiens sont très importants pour les touristes. Ça les attire, au Saguenay. Pourquoi je vous raconte tout ça? Mais monsieur l'inspecteur, je ne viens pas de rien. Je suis née là, au milieu d'une sorte d'extravagance. Ça peut expliquer des choses. Les destins couvent bien quelque part, non? Il y avait une seule route pour s'y rendre, une seule vraie route, pas très large, une seule route pour en sortir aussi. Alors avait-on le choix? Mais celui d'inventer, monsieur l'inspecteur, inventer des routes de l'intérieur et appeler ça un royaume. On cuvait sa vie, là-bas. Les hivers étaient longs dans mon enfance, on avait le temps de jongler à profusion. Les hivers sont moins rigoureux maintenant, on parle de réchauffement de la planète. Je ne sais pas ce que ça vaut comme théorie. Je suis née au mois d'avril, le 14, un lundi de Pâques vers 8h30 du matin. Oui, je suis bélier. C'est vrai, nous pouvons être très violents, mais depuis quand la police s'intéresse-t-elle aux signes astrologiques? Bon, très bien. Je suis née au mois d'avril et ma tante sauvage est venue relever ma mère. Je suis née à la maison. Ma tante Alice, la sœur de ma grand-mère, a accouché ma mère et le docteur Lapointe est venu vérifier si le travail avait été bien fait. Mais j'étais déjà née. Je ne suis dans aucun registre d'hôpital, mais j'ai un baptistère. Ma mère m'a dit que je suis née avec des seins. Il paraît que ça arrive chez les bébés parfois. On m'a mis des compresses pour. Ce ne sont pas des détails inutiles, c'est ma vie. C'est à ma naissance que tout a commencé. Vous voulez savoir l'histoire, oui ou non ? Ma tante sauvage est restée chez nous à partir de ce moment-là. Tante est d'ailleurs le premier mot que j'ai dit, à 6 mois. Ma mère m'en a voulu pendant longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens. C'est un souvenir emprunté. Ma mère était très émotive à chaque fois qu'elle en parlait. Ensuite, j'ai dû grandir. Je n'ai eu aucune des maladies courantes chez les enfants, sauf les oreillons, d'un seul côté. Mon père a été obligé de me prendre dans ses bras pour que le docteur Lapointe puisse me faire une piqûre. Le docteur avait une voix terriblement caverneuse, profonde. J'avais peur de tomber dedans, je hurlais. Après, j'ai dormi dans les bras de mon père qui me berçait. Mais ça, c'est plus tard, rue Montfort. Je devais avoir 5 ou 6 ans, j'en saute des grands bouts. Je suis née dans un tout petit appartement ruelle Tremblay, un 3e, derrière la pharmacie Pelletier où mon parrain a longtemps travaillé comme livreur. La ruelle n'existe plus aujourd'hui. Il me semble avoir vu un stationnement à cet endroit, derrière une pizzeria très courue, une fois, quand j'y suis retournée. Je devais avoir 1 an et demi quand nous avons quitté la ruelle Tremblay pour la rue Saint-François, à 2 pas derrière. Nous n'allions jamais très loin. Il paraît qu'à chaque fois qu'un meuble sortait de la maison, je criais. Je n'ai jamais pu supporter les déménagements, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez bien que les histoires commencent loin, parfois. Ce souvenir-là ne m'appartient pas non plus. C'est ma mère qui s'en est souvenue à ma place. Heureusement qu'elle était là pour me regarder vivre, sinon je n'aurais aucune espèce de biographie. J'ai tardé à sortir des limbes alors que tout le monde autour de moi vivait déjà dans une famille. Il paraît que j'étais une enfant très autonome qui ne voulait jamais qu'on l'aide à nouer ses lacets de bottines. C'est l'exemple que ma mère utilisait toujours pour prouver mon autonomie. Elle n'avait pas l'air d'avoir apprécié cette indépendance. En fait, le seul souvenir personnel qui me revient de cet épisode de la ruelle Tremblay, c'est quand j'ai laissé ma bouteille. Ma mère dit que j'avais 11 mois, mais peut-être qu'elle se trompe. Et c'était peut-être rue Saint-François après tout. Peu importe. Ma tante sauvage était devant moi, très grande. J'étais minuscule. Je cassais mon cou pour la regarder. Elle me disait « Tu es bien trop grande pour avoir encore une bouteille, va l'acheter. » La poubelle était à ma droite. J'ai marché lentement. J'ai ouvert la poubelle de métal blanc et j'ai mis la bouteille dedans, le cœur gros. J'avais jugé qu'elle devait avoir raison, mais je hurlais intérieurement de perdre cette bouteille. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à me ronger les ongles et à bâtir ma réputation de cœur dur. Je ne sais pas. Il me semble que je me suis toujours rongé les ongles. Et j'ai souvent fait des choses contre moi aussi, les deux vont ensemble. À l'extérieur, je souriais. Je me suis toujours demandé à quoi pouvaient servir des mains si on ne pouvait pas toucher sa mère. J'aurais préféré ne pas en avoir. J'ai dû tenter de les faire disparaître en me rongeant les doigts. J'étais naïve et persévérante, voyez. Je crois encore que je peux y arriver. Non, monsieur l'inspecteur, je ne peux pas en venir au fait rapidement, j'y suis déjà au fait. Le processus est déclenché et je ne peux ni l'accélérer ni l'amputer. C'est inexorable. Vivez-vous parfois dans l'inexorable, monsieur l'inspecteur ? Oui, je continue. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ma tante était toujours là, elle habitait avec nous. Elle m'emmenait partout avec elle et m'appelait ma fille. Nous sommes allés très souvent à Québec ensemble en autobus, une fois aussi à Montréal en train. C'est là, pour la première fois de ma vie, à travers la vitre du train, que j'ai pris contact avec la solitude qui n'a pas de fin. Je voyais des arbres tout seuls au milieu d'un grand champ, et une tristesse qui n'a pas de fin, elle non plus, m'a fait perdre le souffle en un instant. Je ne sais pas le nom de ces arbres, des ormes peut-être. Ils auraient dû avoir d'autres arbres pour les accompagner. J'ai gardé cette tristesse pour moi toute seule, comme une mauvaise pensée. Je me suis arrangée avec. Mais cette image ne m'a jamais quittée. Aujourd'hui encore, quand je les vois, j'ai un pincement. Évidemment, le pincement prend moins de place dans mon corps adulte que dans mon corps enfant. La surface n'est pas la même. Le pincement accroche moins de matière au passage. Pour en revenir à ma tante sauvage, elle m'emmenait parfois travailler avec elle dans l'odeur des tissus. Elle était couturière chez Gagnon Frères à Arvida. Je jouais sans me lasser jamais avec des rouleaux de fil vide, des montagnes de couleurs, de textures. Je suis restée très sensible aux tissus. Je me promenais dans le magasin sous les robes suspendues. Je me perdais dans ces odeurs et ces couleurs délirantes comme on se perd dans une fièvre. J'étais bien avec ma tante. Elle m'achetait des choses. Le plus beau cahier à colorier que j'ai jamais eu, c'est elle qui me l'a donné. Elle me ramassait les rouleaux de fil vide par sac entier, et sur la table de la cuisine, je construisais des villes, des forts, des tranchées, avec des soldats en plastique vert qu'on ramassait à l'époque dans les sacs de chips à Saint-Saëns. Je jouais seule. Ma tante avait un coffre de cèdre rempli de merveilles où je pouvais fouiller tant que je voulais. Elle a eu un accordéon piano, un petit orgue, une flûte. Je n'ai jamais rien brisé. J'étais libre. Ma mère n'aimait pas ça, non. Je crois qu'elle s'est sentie lésée dans son instinct maternel, quelque chose comme ça. Les deux sœurs étaient en compétition à mon sujet. Alors je jouais sur les deux tableaux. J'aurais été folle de ne pas en profiter. Mon père, il était au travail pendant 8 heures, de 8 à 4, de 4 à minuit ou de minuit à 8. Il était sur les chiffres. C'est ce mot que j'entendais du moins, mais je crois que c'est une déformation française du mot « shift » qui veut dire « roulement ». Mon père ne parlait pas un mot d'anglais, mais quand il était en congé, il était en loafage. Et quand il attendait un chèque de rétroactivité, il attendait son « back time ». Moi, j'entendais « back time » comme « baptême ». Et comme ce mot provoquait beaucoup de joie chez mon père et ma mère, je l'associais à une fête, comme on en fait pour un baptême. Ma logique comprenait tout. Tous les boss étaient anglais chez Price Brothers, dans une région francophone à 99,9%. Ma logique comprenait ça aussi. Comme mon père ne travaillait pas, il dormait beaucoup. Il dormait surtout, en fait. Où il bricolait, il lisait, il allait à la chasse, à la pêche et aux pratiques de la fanfare de Jonquière. Il jouait du saxophone et de la clarinette. Quand je n'étais pas avec ma tante, j'étais avec lui. Il m'emmenait partout. Avec lui. J'étais le garçon qu'il n'avait pas. J'ai des photos de ça. Bon, il était en terrain neutre, il ne s'en mêlait pas. Il voulait avoir la paix, je crois. Il a choisi la crise cardiaque vite fait bien fait pour l'avoir définitivement. Maintenant, avec mes yeux adultes, je pense que ma tante a été très amoureuse de lui. À son enterrement, elle a sangloté derrière la plus grosse colonne de l'église Saint-Dominique comme une paria, en cachette. Je l'ai vue. Je cherche toujours à savoir où elle est quand toute la famille est obligée de se réunir dans des événements comme ça. Petite, je ne pouvais pas soupçonner qu'elle pouvait avoir un sentiment trouble pour mon père. C'était une vieille fille. Par définition, elle n'aimait et ne pouvait aimer personne. Ma logique comprenait ça. Ma mère me l'avait bien expliqué en détail parce que j'allais finir comme ma tante, c'était évident. J'en avais déduit que l'état de vieille fille était quelque chose de contagieux que j'avais attrapé de ma tante parce que je l'aimais. Je vivais ça comme une fatalité. J'ai toujours préféré le présent à l'avenir. Le cœur du sujet, c'est un sujet qui n'a pas de cœur, vous le savez bien. Je ne m'énerve pas. Il faut que je continue, je n'ai pas besoin de vous pour le savoir, j'ai perdu le fil. Où en étais-je ? Oui, mon père. À nous deux, nous formions obligatoirement un clan aux yeux des autres, celui du silence et des livres. Il m'emmenait à la pêche, à la rivière au sable, sur la barre de son bisec, à la chasse aussi, partout, dans les quincailleries, partout. Avec lui, j'avais accès au monde entier. Aux pratiques de la fanfare, je m'assoyais sans dire un mot parmi des boîtes d'instruments vides. La plupart avaient un fond de velours rouge très très doux. Et il y avait une senteur très particulière dans ces boîtes, l'odeur des hanches de clarinette ou de saxophone. Avez-vous déjà senti une hanche de clarinette ? Mais au contraire, c'est très important pour comprendre mon histoire. La majorité de mes souvenirs se trouvent dans mon nez. Cette mémoire m'appartient en exclusivité et vous allez l'entendre, que vous le vouliez ou non. Sinon je me tais et vous trouverez vos explications vous-même. Mais je ne veux rien obstruer, vous voyez bien que je suis toute ouverte, j'ouvre les barrages. À propos, avez-vous déjà visité le barrage de Chipshaw ? Il y a un pont en aluminium, le seul au monde, avec plein de graffitis écrits dessus. Nous allions les lire le dimanche après-midi, en faisant un tour de machine, comme on disait dans le temps. Tous les dimanches après-midi, nous allions faire un tour. J'avais mal au cœur en auto, et mon père avait accroché une chaîne derrière à cause du magnétisme ou de la gravité, je ne sais pas. Mais c'était efficace. Souvent, nous allions à Saint-Bruno pour manger une crème glacée molle ou du fromage en crotte, parfois au pont d'aluminium. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, nous étions des gens simples qui se contentaient de peu. Dans ce temps-là, je ne pleurais pas. Comment voulez-vous pleurer une histoire sèche, monsieur l'inspecteur ? Avez-vous déjà essayé ? Il n'y a aucune humidité là-dedans, pas d'eau, que du sel, le désert. Le désert, monsieur l'inspecteur, pas une goutte de pluie. J'ai vécu la plus longue sécheresse de l'histoire de l'humanité. Vous ne me croyez pas ? Vous avez raison. Je mens. J'ai tellement pleuré. Tellement. Mais la terre était si sèche que mes larmes n'ont jamais suffi. Essayez donc d'arroser le Sahara avec un arrosoir à pommes trouées. Alors disons que j'étais un arrosoir à pommes trouées. Écrivez ça dans votre rapport. Léna Fulvi dit qu'elle était un arrosoir à pommes trouées. Ça fera bonne impression sur le jury si mon avocate décide de plaider la folie. Mais je ne suis jamais arrivée à me liquéfier cependant, à fondre en larmes au sens strict de l'expression. Avez-vous remarqué, monsieur l'inspecteur, comme les expressions courantes n'arrêtent pas de mentir, et pourtant on les emploie d'abondance, sans penser, mourir de rire ou brûler d'amour. Ça n'arrive jamais à personne. Vous pensez, ça se saurait avec les gros titres automatiques. Vous avez l'air de vous ennuyer, monsieur l'inspecteur. Je vous ai vu retenir un bâillement, ne mentez pas. Vous pouvez aller dormir si vous voulez. Branchez un magnétophone et je continuerai de parler. Je sais très bien comment ça fonctionne, je suis journaliste. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de vous pour parler. Ça coule de toutes parts, je crois que je ne pourrai plus jamais m'arrêter. Je ne me moque pas de vous, je compatis. Votre femme vous attend peut-être ? Bon. Mais soyez attentifs, je ne répéterai pas. Je me suis assez répétée dans ma vie, c'est terminé. Je n'ai pas eu d'enfant probablement pour cette raison, pour ne pas me répéter davantage. Croyez-vous que les gens qui ont des enfants veulent se répéter volontairement ? Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous. Je vais peut-être me mettre à dérailler définitivement, après tout. Comme ça, mon avocate pourra se permettre d'être honnête et de bonne foi en plaidant la folie. Convaincante, surtout. Dites-lui que je commence à dérailler, ça l'encouragera. Si c'est moi qui lui dis, elle croira que je la prends en pitié. Mais de votre part, ça l'impressionnera. Vous êtes un homme objectif. Vous voulez bien ? Mais je ne joue pas. C'est vrai. Il est tard. Alors je vous ai dit que, quand je n'étais pas avec ma tante, j'étais avec mon père. J'étais une enfant sauvage. Quand il venait de la visite à la maison, j'allais me cacher dans ma chambre. Ma mère me criait dans l'escalier de venir dire bonjour au moins. Mais je faisais la sourde oreille. Elle rageait, mais elle n'osait pas insister de peur d'incommoder la visite. Ma mère était très sociale. Elle a toujours eu honte de moi et de mon père à ce sujet. Par ailleurs, elle était très fière de mon intelligence. Elle en parlait beaucoup. J'ai toujours eu l'impression qu'elle se vantait de ça. Avant de commencer l'école, le seul autre souvenir précis de mon enfance, c'est quand j'ai traité ma mère de maudite chienne. J'avais 3 ans à peu près, j'étais sur une balançoire. C'était l'automne, puisque je portais un béret. Ma mère voulait prendre une photo, j'avais horreur de ça. Oui, j'ai écrit ce souvenir-là un jour, mais comment le savez-vous, je n'ai même pas fini de l'écrire. Quoi ? Vous avez fouillé dans mes papiers et vous appelez ça perquisitionner ? Mais c'est infect ! C'est à moi ce souvenir-là, vous n'avez pas le droit de me le prendre ! Une preuve ? Vous allez en faire une preuve ? Mais je n'ai pas écrit une preuve, j'ai écrit une révolte. Écoutez, j'avais 3 ans. Je sais que je l'ai écrit 25 ans plus tard, je ne pouvais tout de même pas le faire à 3 ans. L'incubation a été longue. Je fais affaire à des fous, j'en suis certaine, des malades. Mais vous savez bien que tout peut être la fin du monde pour une enfant de 3 ans. Oui, il y a de la haine dans ce texte, beaucoup de haine. Il fallait bien que je la sorte quelque part. Un papier sur lequel on écrit de la haine ne souffre pas, lui. Une preuve de préméditation. De préméditation. Mais vous savez bien que c'est un accident. On ne prémédite pas un accident. Écoutez, je suis devant vous pour vous raconter du mieux que je peux les circonstances d'un accident qui a commencé dans mon enfance pour arriver 30 ans plus tard. C'est un accident en différé. Ce n'est pas autre chose et vous ne me ferez pas admettre autre chose. Ramenez-moi dans ma cellule. Je vous vois venir, je vais me retrouver avec un meurtre au premier degré sur le dos. Je ne marche pas dans votre combine, je ne suis pas une meurtrière, c'était un accident, un accident. Pièce à conviction numéro 1, souvenir d'enfance. Maudite chienne, comme un couteau. Maudite chienne. Elle retenait ce haut le cœur depuis 3 ans. Elle avait 3 ans. Les deux mots étaient d'ailleurs beaucoup trop gros pour le minuscule corps qui les vomissait. Le couteau siffla entre les dents de la petite fille et vint se ficher à une vitesse lumineuse en plein cœur du gros corps qui se trouvait dans sa trajectoire. C'était un corps lourd, avec des ronds comme des lunes mais sans cratère. Il est très important de le préciser parce que c'était un corps lisse, un corps corseté la plupart du temps. À des cratères, on peut toujours s'accrocher. Ce corps n'a même pas tressailli sous l'onde de choc. Le couteau disparut facilement dans les chairs nombreuses. Mais le regard et le corps devinrent des angles coupants, probablement nourris par le fil aiguisé du couteau. Elle avait l'art d'apprêter tout genre de reste, d'utiliser, de transformer toute matière. C'était une vraie mère. La balançoire n'avait même pas fini de bondir que tous ces événements étaient passés. Une seconde, une heure, une année, une vie. Tout était passé. Y compris le regard de haine de la petite fille, qui avait tellement crispé ses doigts sur les cordes de la balançoire qu'elle sentait que ses doigts étaient peut-être devenus de la même chair que la corde. Il aurait fallu qu'elle vérifie, mais elle n'avait pas le temps. Seulement le temps de vomir du regard et de la peau. Seulement le temps de déverser sa haine, le barrage ne tenait plus. Le corps n'avait pas encore bougé. Il se rentrait par en dedans. Il devenait plus lourd encore pour préparer l'éclat. La petite fille n'avait pas peur de l'éclat. Elle connaissait bien ce recueillement des fauves avant la curée. Elle n'était pas la proie, mais l'autre fauve. « Non, maman, prends pas ton Kodak. Maman, maman, non, j'aime pas ça poser. Maman !» Rire, œil, clic, rire, rire, rire. Des témoins rient. Prisonnière dans la boîte, dans le rire, prisonnière, du rire contre les parois de son crâne comme sur une peau de tambour, de l'écho. Des témoins rient et ça fait de l'écho. C'est comme dans le masque à gaz chez le dentiste, le bruit insoutenable du gaz et des rires. Maudite chienne. Une brèche. Faire une brèche pour fuir, pour respirer, pour en finir avec cet enfant si long dont je ne veux pas. Une brèche dans sa carcasse blindée, inusable, inoxydable, dans sa carcasse qui pique. Je ne veux pas caresser un cactus. Ne m'obligez pas à avoir envie de caresser un cactus. Faire une brèche aussi grosse qu'elle est loin. Creuser avec les mots qui sont mes poings, saigner la haine, saigner haleine, comme quand c'est la dernière solution, comme quand c'est la dernière chose à tenter sur un corps pâle qui meurt dans un lit blanc. Saigner haleine. Couper les ponts et saboter tous les éventuels projets de pont. Monter la garde de jour et de nuit. Ne pas supporter l'idée de pont. Je n'en veux pas de cette enfance dans laquelle vous m'avez installée. Janvier-mars 1980.
La difficulté, c'était le monologue d'ouverture, qui, lui, était magnifique. À la lecture, il est très beau. Il est beaucoup trop long pour la scène. En tout cas, à l'époque, je le jugeais trop long. Et la comédienne Louise aussi, on sentait qu'il y avait des coupures à faire. Mais on laissait le temps de voir où c'est que où allait laisser émerger ces coupures, laisser apparaître encore avant de faire quelque chose de trop... d'utiliser le ciseau de manière un peu trop dégueulasse. Alors, elle voulait pas couper. Elle voulait pas, Hélène, elle voulait en rester là, avec l'entité de la chose, ce qui est respectable, mais ce qui dramatiquement nous semblait dangereux pour... Le reste de la pièce, quand le dialogue arrive après ce long monologue, on se retrouvait avec presque une demi-heure de spectacle de fait, et je trouvais que ça... c'est comme si ça alourdissait et aussi ça traçait des pistes qui n'étaient pas nécessaires, qui empêchaient peut-être le dialogue de vraiment trouver tous ses secrets. Alors... je négociais et à un moment donné, c'était rendu difficile de le faire devant tout le monde. Alors, je lui ai demandé de ne plus venir aux répétitions. Ginette Noisul l'a convaincue. Elle comprenait. Et chez elle, à tous les 3 jours, à peu près 4 jours, je m'en venais avec mes questions et mes propositions de coupure que je négociais à coups de paquets de cigarettes avec elle, partagées. C'était formidable, mais c'était. Fallait que. Faut avoir de l'argumentaire avec Hélène Pedneau. Et j'ai réussi à la convaincre de faire quelques coupures, mais le monologue demeurait quand même un peu longuet, jusqu'à un enchaînement où elle est venue, et ça faisait au moins un mois, sûrement peut-être plus, qu'elle n'était pas venue aux répétitions. L'enchaînement de la pièce, Hélène a regardé l'enchaînement, et elle a dit, « Ben voyons, c'est bien trop long. C'est bien trop long, le monologue d'ouverture. Coupez ça, coupez. » Et voilà. Là, on a pu faire toutes les coupures qu'on avait déjà proposées. Et ça la faisait rire.
Je ne dois pas être la seule qui l'a dit, mais elle me manque beaucoup dans l'espace public. Comme parole, comme présence, comme regard aussi. Un regard toujours amoureux, finalement, même si elle était choquée, même si c'était, tu sais, c'est particulier, son regard. C'est toujours amoureux, toujours. Elle aimait les êtres humains. Même si elle était très solitaire, tu sais, puis qu'elle avait un côté très solitaire chez elle, là. Bon, comme tous les créateurs, les écrivains. J'imagine.
Vous venez d'entendre la première partie de La Déposition, une pièce de théâtre de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Claude Poisson et Louise Laprade. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.